Retrouvez toutes vos émissions préférées en podcast en téléchargeant dès à présent l'application Mon Paris FM sur Apple Store ou Play Store. Radiophoniquement.
Mon Paris FM.
Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver, ravi d'être naturellement avec vous après ce petit week-end de repos à l'occasion du lundi de Pâques. On est ravi en tout cas de reprendre les bonnes habitudes. Alors ce soir on a un invité, j'allais dire presque aux mille vies, c'est notre ami Xavier Louis. Alors il va surtout nous parler de sa passion du sport et du vélo. Xavier, bonsoir.
Bonsoir à tous.
Énorme merci de te recevoir ce soir. Donc, on s'est vu pour les 80 ans de l'équipe chez l'ami Claude Meignan. Donc, je voulais que tu viennes un petit peu parler de ta passion du vélo, de tes années aussi au sein de la direction du Tour de France, mais pas que. On aura l'occasion en tout cas d'y revenir assez largement. Bonsoir Vanessa, comment tu vas Vanessa?
Très bien Philippe. Ouais.
Quel week-end de sport.
Ah oui, un gros week-end de sport. Entre le marathon de Paris, le Paris-Roubaix, badminton et tout le reste. C'était très chargé. Champion d'Europe en badminton.
C'est bien. Bonsoir Stéphane.
Bonsoir Philippe, bonsoir à tous.
Ça va?
Ça
va. Je suis sûr que tu as des beaux coups de cœur, coups de gueule. Ça t'a beaucoup inspiré ce beau week-end de sport.
C'est très très chargé, notamment un gros coup de gueule que je me garde de côté.
Ça sera la surprise. Alors, naturellement, je l'ai dit, on parlera aussi du marathon de Paris. On y était donc ce dimanche. On aura l'occasion d'écouter les quelques interviews qu'on a ramenées. Puis on aura Émilie qui a gagné son pari. Elle était venue nous voir au mois de décembre. Elle voulait courir pour donc Gustave Roussy. Elle a gagné son pari. Non seulement elle a fini le marathon, et en plus en dessous des 4 heures. C'était la barrière qu'elle s'était donnée, 3h51. Donc elle nous en parlera aux
abonnés. Félicitations.
De 19h30, c'est on aura le point foot avec notre ami Stéphane Dezenclos. Et puis on va saluer Marius et Pitéo, qui sont aussi à l'école cette semaine. Alors, Xavier, question simple. Ça remonte à quand, la passion du vélo?
La passion du vélo.
Très jeune dans les Pyrénées.
Et du Tour de France, ça remonte à 1953. J'avais 6 ans et j'étais à Luchon, Saint-Mamet, pour ceux qui connaissent la région. Et alors, il y avait deux caractéristiques. D'une part, c'est mon frère qui était en cure. On louait une...
Très célèbre pour l'Otterman, d'ailleurs. Là-bas.
Absolument. On louait une vieille masure. Et on m'a d'abord commencé par m'expliquer que une belle maison qui était à côté, c'était la résidence secondaire de M. Vincent Auriol, président de la République.
Le boulevard qui n'est pas très loin d'ici, dans le 13e arrondissement.
C'est important pour la suite, ce que je viens de dire. Et puis en même temps, il se trouvait que j'ai commencé à comprendre qu'il y avait un événement qui allait se passer. On était au mois de juillet. J'ai compris, on m'a expliqué que c'est le Tour de France qui allait arriver à Luchon, pour l'étape traditionnelle. Et je me souviens toujours, j'ai ce souvenir extraordinaire chez la boulangère. Elle était en pamoison, je sens qu'il se passait quelque chose dans la boulangerie. Elle venait d'apprendre que c'est sa fille qui avait été désignée pour être la miss qui remettrait le bouquet au vainqueur de l'étape.
À l'époque, c'était
un privilège. Imaginez, moi le môme de 6 ans. Et puis arrive le jour fatidique, ma maman m'emmène le 14 juillet, jusqu'aux allées d'Etigny, on m'installe dans les barrières et je vois l'arrivée du Tour de France gagné par Jean Robic et Louison Bobet qui prend le maillot jaune. Et je revois toujours Jean Robic, parce qu'à l'époque, les coureurs faisaient un tour d'honneur le long des barrières avec son bouquet de glaïeul rose, orange. Et donc j'ai ce souvenir dans la tête. Rentré à Paris, pour répondre à ta question, cher Philippe, j'avais deux rêves de gosse. L'un, je voulais gagner l'émission de Radio Luxembourg, Le rêve de votre vie.
Ah, d'accord.
J'ai dit, je veux gagner pour demander à pouvoir suivre une étape du Tour de France dans la voiture d'un directeur. Pas mal.
Incroyable. Déjà.
Et puis après, au collège, on nous a demandé ce qu'on voulait faire plus tard. Alors, tous les copains, on était en classe de 10e. Tous les copains ont répondu soldats, pompiers, agents de police, machin. Alors, comme j'étais un des derniers, j'ai dit, je vais essayer de faire entendre une petite différence. J'ai dit, moi, président de la République.
Waouh, wow. Rien que ça.
Le supérieur du collège dit, enfin, un petit qui a de l'ambition. Je me souviens, il se tourne vers la demoiselle, il dit, enfin, un petit qui a de l'ambition. Donc, je rentre à la maison, maman, je lui dis, maman, tu sais, quand je serai grand, je ne serai pas directeur de France, mais président de la République. Voilà. Mais ceci dit...
Et t'es monté dans la voiture avec du président de la République. Hein,
oui, mais sauf que quand j'ai eu 24 ans, mon premier job, c'était au cabinet du Premier ministre.
Oui,
donc à ce moment-là, il y avait plus de chances à limite que je me dirige vers la candidature au président de la République que la direction du droit.
On va quand même rappeler, hein, pour les jeunes qui nous écoutent, que c'était M. Chaban-Delmas à l'époque.
C'était absolument. Voilà. Jacques Chaban-Delmas. Voilà. Et donc, c'était en 1971. Ouais, j'ai fait la dernière année au cabinet de Jacques Chaban-Delmas. Ouais.
Et qu'est-ce qui t'amène à la direction du Tour de France?
La sécurité routière.
Voilà.
C'est-à-dire qu'en fait...
Là, ça m'intéresse.
Je quitte Matignon en 1972, quand Chaban s'en va.
Oui.
Et celui avec qui j'avais beaucoup travaillé, qui s'appelait Christian Girondeau, est nommé le même jour Monsieur Sécurité Routière. Et il me propose, alors que je voulais rentrer à la DATAR, à l'aménagement du territoire, il me dit, venez avec moi. Et on a commencé tous les deux l'été 72. Et j'étais chargé des statistiques et de tout ce qui était deux roues, ma moteur et vélo. Et très vite, j'ai créé à la commission, d'abord à la Fédération française de cyclisme, une commission de sécurité pour les vélos, où était Félix Lévitan, directeur du Tour de France. Et on a lancé une campagne en 1975, deux roues, deux fois plus d'attention, qui a été décliné sur le Tour de France. Donc le Tour de France, la sécurité routière était sponsor du Tour de France. Ouais, qui m'a valu d'être invité en 1975 et de faire l'étape Pau-Saint-Lary-Soulan dans la voiture des directeurs. Mon rêve de gosse, j'y ai pensé ce jour-là. C'est incroyable, mon rêve de gosse, j'y ai pensé pendant toute l'étape. Ouais. On imagine, je me dis, mais c'est incroyable, ce dont tu rêvais à 6 ans, voilà, c'est... Ça marche.
Et après, donc,
comment je suis entre tour après C'est bon. Donc, Félix Lévitan m'avait repéré, si je puis dire. Et donc, j'ai un souvenir assez extraordinaire. En 76, je suis à nouveau invité sur le tour, mais nous ne sommes plus sponsors. Et Félix Lévitan me demande de venir le voir. Je le connaissant, je me dis, c'est parce qu'il voudrait qu'on soit à nouveau sponsor. Et je ne pouvais pas, on était sur d'autres choses. Et puis il me dit, qu'est-ce que vous voulez faire plus tard? Je lui dis, moi, de la politique. Et je le vois toujours qui me dit, ça ne nourrit pas son âme. Il avait raison d'ailleurs. Mais il dit, voilà, j'ai quelque chose à vous proposer. Vous êtes the right man in the right place. Nous faisons vieux avec Jacques Godet. Et il faut penser à la succession. Donc,
voilà,
vous verrez très bien prendre la suite. Pour dire toute la vérité, le grand patron, Émilien Amaury, ne voulait pas entendre parler de succession au directeur du Tour. Et donc, c'est quand, c'est assez tragique, mais il décède, chute de cheval, en janvier 77. Et quelques jours après, Félix Lévitan m'appelle en disant, maintenant, vous venez. Sauf que je venais de rentrer chez Peugeot. Cycle Peugeot, bref, il y a eu un transfert. Et en mai 77, voilà, j'ai commencé une nouvelle vie de directeur adjoint
Et ensuite,
du Tour de France pendant 10
ans
et 2 ans directeur. Voilà. Donc je suis resté 12 ans au Tour de France.
Donc c'est des années fabuleuses, hein, quand même. Hein. Humainement, tout ça.
Voilà, il y a les vies. Ouais. Alors, comme je dis, il y a une part de chance, mais avec ce que je viens de vous raconter, il y a un moment, il faut aussi être prêt à ce que, voilà, que cette chance vous tombe dessus. Vous voyez ce que je veux dire? Ça se prépare un peu quand même. Voilà. Mais c'est vrai que j'avais pas de plan de carrière. J'étais très content d'avoir réalisé mon rêve de suivre une étape dans la voiture du directeur, mais j'avais pas
Et ça s'arrête en 89, hein?
Alors, début 89, en fait.
Et pourquoi?
Pour une raison principale, c'est que j'étais en désaccord total avec l'Union cycliste internationale et son président Hein Verbruggen, en fait, qui voulait, il a réussi d'ailleurs, il voulait réduire l'omnipuissance du Tour de France sur le cyclisme international. Il voulait reprendre la main, bon, grand bien lui fasse. Donc, il voulait profiter du départ des figures emblématiques Jacques Godet et Félix Lévitant. Il voulait imposer un circuit mondial qu'il contrôle. Il voulait imposer au Tour de France, ce qu'il a réussi, hein, tout ce que je vous dis, il l'a réussi. Il voulait imposer au Tour de France le fait que ce ne soit pas le Tour de France, les organisateurs qui invitent les équipes, elles sont imposées. Et tout ça, j'étais contre. Alors, j'étais contre et j'ai été soutenu par le groupe pendant jusqu'à l'été 88. Et donc, moi, j'étais assez... Ça s'est mal passé, pour dire les choses. J'étais un peu tendu avec l'UCI, y compris le Tour 80, notamment le Tour 88. Et au cours de l'été, visiblement, il y a un choix qui a été fait du groupe L'Équipe, puisque c'était Jean-Pierre Courcol, que je comprends d'ailleurs, qui était « on ne peut pas se mettre à dos un président d'abord d'une grande fédération, mais qui surtout... » Hein Verbeugen, c'était l'homme des Jeux Olympiques.
Et lui en plus,
c'est lui qui était reçu comme un chef d'État.
Plus, bien sûr.
Donc L'Équipe, bon ben Xavier Louis, mon vieux, on vous aime bien, mais voilà, changement de casting. Et puis moi, de toute façon, je ne serais pas resté dans ces conditions-là, c'est-à-dire avoir le président du jury à côté de moi, etc. C'est, moi, j'étais le directeur de la course, j'avais passé tous mes j'étais commissaire international, etc. Donc de toute façon, et puis l'histoire des équipes, moi je voulais pas qu'on invite des voyous. Donc et là on impose au Tour de France des équipes de voyous. Donc j'étais pas d'accord.
Malheureusement,
donc, tout
la suite ça, a donné raison après. Hein.
Donc tout ça, ça, donc ça s'est très très bien passé hein, pour répondre à ta question. Le départ s'est très très bien passé. C'est eux les patrons, le Tour, c'était pas moi. Moi je suis vachement content, je suis positif toujours. Hein. J'ai vécu 12 ans exceptionnels. Bon, c'est des souvenirs merveilleux. Et puis je suis passé à autre chose. Donc je suis revenu à la politique.
Hein,
j'avais à peine quitté le Tour de France en février 89, qu'en mars 89, j'étais élu contre toute attente maire adjoint à Sarlat.
Très belle ville de Sarlat.
Où on a battu les communistes, qui étaient historiques. Et je suis resté 12 ans maire adjoint de Sarlat. Après, j'ai créé ma société. Enfin, voilà, donc, mais c'était le passage Tour de France est une vie extraordinaire. Mais au Tour de France, on en reparlera peut-être, j'ai plus joué. Vous l'avez compris, je ne venais pas du monde du sport. Je venais du monde de la politique. Mais c'est aussi pour ça qu'on m'avait choisi et fait venir. Et donc, j'ai plus été un politique.
Et tu m'as dit que... Comme tu étais le seul qui n'avait pas été journaliste à la tête du Tour de France, ça a été un des avantages.
Ça m'a valu quelques inimitiés dès les premiers mois où j'y étais. Vous reprenez un édito de Miroir du cyclisme de Jacques Marchand. Je rentre en mai 77 à Tour de France. En septembre 77, Jacques Marchand écrit « Il ne faudrait pas que le Tour de France tombât un jour entre les mains d'un technocrate qui se voulait un politique. Enfin, c'était très gentil.
D'un politicien.
C'était très gentil. Voilà. Et puis après, c'est sûr. Et d'ailleurs, le même Jacques Marchand, dans un livre qu'il a fait sur l'historique des directeurs du Tour de France, il n'y en a pas eu beaucoup, il y en a eu 6, il a gommé Xavier Louis. Il y a un petit astérix en bas d'une page en disant il y a eu un mec qui s'appelle Xavier Louis qui n'était pas journaliste.
C'est très, très classe.
Je me demandais justement quelle vision vous avez pu apporter. Qu'est-ce que vous, peut-être, vous voyez que les autres ne voyaient pas, quelque part.
Voilà. C'est une très bonne question, je vais vous dire, parce que ça a été, c'est ma fierté aujourd'hui de ce que j'ai fait au Tour de France. Je suis arrivé, donc on est en 77. Le Tour de France, c'est... On a du mal à avoir une centaine de coureurs au départ. Il y a 5 pays qui sont représentés, en gros, la Belgique, l'Italie, la France, l'Espagne, voilà, à peu près, ça se limite en gros à ça, il y a quelques Espagnols, enfin quelques Portugais, quelques Allemands, enfin de ci, de là, mais voilà. Et ça commence à moins intéresser les foules et surtout la presse, les médias, parce qu'en plus c'est toujours les mêmes qui gagnent, c'était Eddy Merckx, c'est pas vrai.
Donc c'est Pogacar.
Moi je me rends compte que, avec mon œil extérieur, effectivement, bah, il faut pas tellement un coup de jeune, il faut... Il faut mondialiser. Et c'est ce que j'ai fait tout de suite, dès 78, avec le Tour de l'Avenir. Ça n'a pas traîné. Déjà, un an après mon arrivée au Tour de France, j'étais sur la course de la paix. J'y allais tous les ans, en Pologne, en Tchécoslovaquie. D'accord. Je rencontrais les soviétiques, notamment. On avait déjà parlé d'un Paris-Moscou à l'époque, je me souviens. C'est de la politique, ça, je peux vous dire. C'est de la route politique.
Paris-Moscou, waouh. J'imagine la distance. En fait,
c'est avec quelques verres de vodka et autres. Mais c'est c'est de la haute diplomatie.
Toujours.
Et donc, d'ailleurs, j'avais, pour moi, je m'étais fixé une double mission. Les convaincre que ils étaient mûrs pour venir affronter les professionnels, que quelque part, j'en disais, vous êtes aussi des professionnels, vos gars, ils sont un peu payés pour ça quand même. Bon, mais on va vous montrer qu'ils peuvent tout à fait aujourd'hui se mêler. Alors, plutôt que de gagner la course de la peste, c'est quand même plus sympa de venir gagner des étapes sur un Tour de France, même pour votre pays, pour l'image de votre
prestige,
pays. Donc, ça s'est fait assez vite. Et puis... j'ai fait venir aussi, alors c'était la grande deuxième opération, les Colombiens. Oui. Ça, c'est moi qui ai fait venir
c'était
l'équipe de Colombie
oui.
et qui après les ai accompagnés pour qu'ils viennent aussi sur le Tour de France qui a complètement changé la course. Donc je l'ai fait notamment, j'ai beaucoup négocié avec les Japonais. Notamment au niveau des médias, parce que là, ils avaient moins de coureurs, bien qu'ils sont venus, mais ils n'arrivaient pas, eux, à être au plus haut niveau, mais ils sont venus sur le Tour de l'Avenir. Mais leurs médias se sont intéressés au Tour de France. NHK,
notamment. Oui, bien sûr. Oui.
Voilà,
la
NHK
principale
est,
chaîne
NHK est
japonaise
venue.
De sport.
Le logo du Tour de France, dans ces années-là, c'est Dentsu. Ce sont les Japonais, on ne l'a pas créé sur étoile, mais ce sont des Japonais. Et puis, il y a eu toutes les opérations aux États-Unis. Et donc, en 83... Et là, j'en suis fier. Je ne l'ai pas fait tout seul, on est clair, mais je revendique d'être l'acteur majeur de cette mondialisation. En 1983, on revient quelque part en partie au tour par équipe nationale, puisqu'il y a deux équipes nationales, une équipe nationale de Colombie et une équipe nord-américaine, avec des Canadiens,
Des Américains,
et des Américains. Oui. Et donc là, c'est gagné, parce qu'à partir de là, tout change. L'économie d'abord, le modèle économique du tour... On passe de Merlin à Coca-Cola. C'est pas le même nombre de zéros sur le chèque.
On est bien d'accord.
Pourquoi c'est pas le même nombre de zéros sur le chèque? C'est qu'en termes de retombées médiatiques, il y a quelques zéros qui s'ajoutent aussi.
C'est certain.
Par exemple, à partir de 1985, c'est la télévision chinoise. Ça nous amène 350 millions de téléspectateurs de plus. Bon. Donc tout ça fait que le modèle part... en exponentielle au niveau des recettes, pour les équipes, pour les organisateurs. Donc c'est gagné. C'est la pérennité du tour. Et puis au niveau même sportif, au lieu d'avoir une centaine de coureurs qui verrouillent, il y a deux équipes qui verrouillent tout, c'est ce qui se passait à l'époque, tout d'un coup c'est l'explosion, c'est des Colombiens qui démarrent au pied des cols, c'est des ces équipes qui ont besoin de se montrer, donc qui n'attendent pas que la télévision arrive pour attaquer, etc. La phase du tour, quoi.
Oui.
Et la phase du tour est changée et son équilibre économique est garanti.
Oui, et puis Xavier, après, tu n'étais peut-être plus là, mais il y a eu la chute du mur de Berlin. Ça a beaucoup joué pour la mondialisation du vélo.
89.
Tu étais à Berlin en 87, mais après, quand le mur tombe, tu n'étais plus à la tête du Tour de France, quoi.
Non, mais il y a une anecdote quand même que je révèle... qui est quand même là aussi un grand moment que j'ai vécu, moi, le politique, entre guillemets.
C'est important. Ouais.
C'est, on a donc le départ du Tour de France 87. Qui est prévu à Berlin en 1987.
Ouais.
Et bon, il se trouve qu'en plus, j'étais le seul dans la maison à parler l'allemand. Donc évidemment, je me suis plus occupé que les autres de la préparation de ce départ à Berlin. Et... il me vient mon idée, toujours mon côté politique. Je dis, mince, on part de Berlin, mais et si on essayait de franchir le mur. Car c'était l'époque, souvenez-vous.
Berlin-Est et Berlin-Ouest.
Mais c'était surtout l'époque où il y avait un dénommé Gorbatchev à la tête de l'Union soviétique.
Bien sûr.
Qui cherchait à commencer à ouvrir.
Ouvrir ce fameux mur.
Ouais. Et donc, j'en parle d'abord. À l'occasion d'un déplacement à Berlin avec le maire de Berlin, Eberhard Diepken, puisque c'est lui qui payait les tables et tout, donc je ne pouvais pas m'amuser à ça sans son accord. Et il me dit, écoutez, si vous y arrivez, Moi, il dit, moi, je ne peux pas, vu mon statut, etc. Ce n'est pas moi, maire de Berlin, connaissant le statut de Berlin à l'époque. Moi qui peux obtenir ça. Si vous l'obtenez, ça ne change rien à nos accords, sous-entendu, financièrement, etc. Si vous allez faire un petit tour par Berlin-Est, ce n'est pas un problème. Je reviens à Paris. On en parle au Quai d'Orsay, hein, quand même.
Bon, oui, fatalement.
On en parle au Quai d'Orsay. C'était Chirac qui était Premier ministre à l'époque. Et on me donne le feu vert, tentez le coup. Moi, je me dis, qu'est-ce que je fais? J'appelle le camarade Zilberman, qui était le conseiller sport de Georges Marchais. Je lui raconte le truc. Parce qu'à l'époque, on travaillait sur le Paris-Moscou, avec Roland Leroy, etc. Et c'est extraordinaire de vivre ces moments-là.
Ah bah
et,
oui,
et
totalement.
Retour, Marchais dit génial. Marchais demande quand même...
Qui était un amoureux du sport, hein, quand même. Hein.
Tout à fait. Oui, bah, j'avais vu sur le Tour de France, il était venu sur le Tour de France. Et Marchais, même chose, obtient une sorte de feu vert de Gorbatchev. Vous voyez ce qu'on vivait.
Ça commençait là, c'est la
assez
transformation.
Et
il appelle ses camarades allemands. Ça tombait bien qu'il connaissait très bien Heinrich Honecker, qui était le président de la RDA, et sa femme Margot Honecker, qui était, elle, ministre des Sports, ministre de la Jeunesse, qui disent OK. Et on disait, c'est gagné, on va faire un coup de dingue. Pas de peau, c'est qu'on est dans un système communiste. Chez les communistes, les gens importants, c'est le parti. C'est comme en Chine, vous savez. Et c'est
bien
parti.
Sûr, oui.
Et l'un des mecs importants du parti s'appelait Ewald. Et c'était le président du comité olympique. Il a dit nine. Nine, profis, professionnel, pas question.
Ah oui, et on a une vision du sport totalement différente.
Et on a raté, on a manqué de peu. Ça aurait été un truc.
Ça aurait été exceptionnel.
Déjà, c'était un grand moment parce que départ de Berlin, on est en 87. En 87, on part. Il y a Chirac qui est là, qui est venu comme Premier ministre. Il y a Genscher, le ministre des Affaires étrangères allemand. Bon, il y a évidemment les télés du monde entier, y compris les télés américaines, japonaises, chinoises et autres. Et on part devant le mur, devant le Reichstag.
Donc c'est quand même un moment...
Devant le Reichstag.
C'est un moment historique que vous avez vécu.
C'est quand même
incroyable.
Et c'est un Polonais qui prend le maillot jaune.
Oui, Piasecki.
Ça, c'est Gauthier, par contre.
Piasecki.
Piasecki
qui prend le maillot. Ça, c'est des grands moments. Ouais, me demander ce que, effectivement, les grands moments qui m'ont marqué. Ça, et puis dans la même veine, mais qui résume un peu tout ce que je viens de vous dire, c'est en 1985... l'arrivée du Tour de l'Avenir à Toulouse, qui est gagné pour la deuxième fois par un coureur colombien, Martin Ramirez, coureur qui d'ailleurs avait battu Bernard, avait battu Bernard Hinault au Dauphiné Libéré d'ailleurs. Et on me dit, ça nous ramène à la radio, vos confrères de RCNE, qui est la grande radio colombienne, sont extraordinaires, ils me disent... Seigneur Louis, on a un duplex avec le président de la République, Belisario Betancourt.
Oh, waouh.
Ah,
ah oui, on fait comment pour organiser
alors,
ça?
Alors, mais les casques, machin, Seigneur Presidente, somos muy contentos de la victoria de un corredor de Colombia.
Muy feliz.
Et j'ai échangé avec le président qui voulait me remercier, justement, pour ce qu'on avait fait pour son pays, c'est-à-dire pour l'image, parce que, et j'ai toujours le souvenir... Là aussi, je suis content d'y avoir un petit peu contribué. Et j'ai le souvenir d'un journal de TF1 à 20h avec Dominique Bromberger qui ouvre l'antenne. Je ne sais plus pour quelle raison, mais il dit « La Colombie, connue pour ses coureurs cyclistes et son café ». Et ce que je veux dire, et l'image qu'on avait réussi.
Oui.
Hein, ils étaient vachement conscients de ça, d'ailleurs, le président de la République colombienne. Le vélo, ça sert aussi à ça. Le sport en général, d'ailleurs.
Bien sûr,
Le sport, c'est ce qui me passionne, moi qui, encore une fois, venais du monde politique et reste un politique. C'est ce lien et que, d'ailleurs, que le politique reprenne la main. J'ai fait un livre là-dessus qui s'appelle « L'Empire des Anneaux », où j'exhorte les politiques à reprendre la main sur les fédérations, notamment.
Ouais.
Parce que c'est devenu un peu l'État dans l'État. Les Ecclestone et autres, et autres Dassler n'ont pas fait que du bien au sport. Ils l'ont un peu trop transformé en machine à cash. Quoi.
Et aujourd'hui, donc, le Tour, qu'est-ce que tu en penses?
Beaucoup de bien.
Oui, bien sûr.
Beaucoup de bien.
On en parlait. Hein,
beaucoup de bien. Beaucoup de bien. Je reste un passionné. J'y vais chaque année. Je reste un passionné du Tour. Il a remarquablement bien évolué. Ouais. J'admire beaucoup Christian Prudhomme, qui est un vrai amoureux des cyclistes et du cyclisme. Non, c'est le Tour a très très bien.
Ouais. Il a su évoluer en Paris-Roubaix,
puisqu'on a parlé de l'actualité, c'est aussi le Tour de France, vous le savez. Par exemple, alors pour répondre sur les choses plus terre à terre, si je puis dire, vous avez remarqué hier sûrement que les secteurs pavés sont numérotés.
Oui.
C'est Bibi.
Non.
Ah.
Oui.
Alors, non, si c'est du scoop.
Alors, vous parlez de l'œil extérieur. Vous voyez, l'œil extérieur. Je suis donc directeur adjoint donc de la course. Je suis à l'avant de la course. Hein. J'étais à l'avant de la course devant Félix Lévitant. Et je prenais les échappées. Moi, en fait, j'avais la chance d'être avec les premiers. En fait. Et c'était les trois années où il y a Francesco Moser qui gagne.
78, 79, 80.
Et je crois, alors, c'est une des trois années, 79, je crois, 80. Mmh. Bon. Alors, on avait un sponsor. Seulement, on perdait tout l'argent qu'on voulait pour l'organisation de Paris-Roubaix. Mmh. C'était la Redoute. Bon. Donc, il y avait une vague banderole à l'arrivée, quoi, en gros. Hein, à l'arrivée. Et pendant la course, je me souviens que les coureurs viennent plusieurs fois à la hauteur de ma voiture en disant « Où est-ce qu'on est? Combien il reste de secteurs pavés ?» etc. Les gars étaient paumés. Ils ne savaient pas où ils en étaient. Nous non plus, d'ailleurs, quelque part, pas très bien. Mon chauffeur était un peu plus au fait que moi, il a pu un peu les renseigner, mais bon, c'était vraiment pas pratique. Je rentre, je dis à Félix Lévitant, on fait toujours un débrief après chaque course, je leur dis, mais il y a un truc, est-ce qu'on pourrait pas mettre des banderoles? Au hasard, on mettrait la Redoute à l'entrée des secteurs et à la sortie, et on met un numéro. Comme ça, les coureurs qui auraient fait la reconnaissance, ils seraient, je vais attaquer au 4 ou je vais attaquer au 3, et puis au moins, ils sauraient où ils en sont, combien il en reste. Idée géniale. Évidemment, on a en plus augmenté un tout petit peu
le montant du sponsor.
Donc, on était gagnant-gagnant. Et l'idée était reprise par toutes les autres courses. Alors, moi, c'est toujours les USTR. J'ai un truc, voilà. Il y a des choses comme ça. J'en ai fait plusieurs. Non. Le classement des coureurs, c'est moi, par exemple. Pareil, je trouvais que c'était embêtant. Les coureurs, je dis, en tennis, on sait un coureur, c'est le 50e. Un joueur, c'est le 50e, c'est le 75e. Ça nous donne une idée. Là, les coureurs, on ne sait pas quel est le numéro 1 mondial. Donc, j'ai établi tout un système qui a été repris tel quel, d'ailleurs pratiquement, que dans le premier bouquin que j'avais fait.
Les 21 virages de l'Alpe d'Huez, c'est pas toi?
Ah non, pas du tout.
je blague. Hein.
Non, mais c'est une bonne remarque.
Alors, je voudrais aussi qu'on parle un petit peu, tu as aussi été un petit peu précurseur, on en parlait hors antenne, sur le vélo à Paris.
Oui, alors, ça je le revendique totalement. Vous avez compris que j'ai toujours, depuis en fait, la sécurité routière en fait. Puisque donc je m'occupais de tout ce qui était vélo. Alors évidemment, j'ai été amené à m'occuper de la partie sportive, disons. C'est pour ça que j'ai fait une commission de sécurité à la Fédération française de cyclistes pour les courses cyclistes. Mais on a travaillé aussi beaucoup sur le casque, qui intéressait pas seulement les coureurs cyclistes. Avec le professeur Gault.
Les champions ne voulaient pas à l'époque. Hein,
avec le professeur Gault, j'ai appris des choses sur les casques. Il ne faut pas qu'ils soient trop durs, il faut qu'ils cassent. Avant, il faut qu'il casse facilement.
Oui, il faut qu'il casse facilement.
Oui, parce que s'il transmet le choc, c'est pas bon. Enfin bref, j'ai beaucoup travaillé là-dessus. J'ai été amené, au moment où j'étais toujours à sécurité routière, à m'occuper, par exemple, du problème de Longchamp. Le circuit de Longchamp. Mmh. Imaginez, on est avant 73, qu'il y a des voitures dans les deux sens. Mmh. Et pareil à Vincennes, mais notamment à Longchamp. Et donc, bref... c'est moi qui décide, en accord avec le Premier ministre, parce que le préfet de police n'était pas d'accord. Le préfet de police, il dit, on va pas se marcher pour quelques PDG qui veulent perdre leur vente le dimanche.
Voilà. Oh, waouh.
Ah ouais, texto.
Ouverture d'esprit.
Texto.
Quoi.
Donc, j'en reviens à la charge. Moi, ça me paraissait... plus, c'était pas interdire les voitures à l'intérieur et puis les laisser à l'extérieur. Ça me paraissait quand même déjà pas dramatique. C'est un vrai partage de la chaussée. Bref, voilà. Donc ça, je l'ai fait aménager à cette époque-là. Et par la suite, alors là, on est dans les années 80, au moment où je suis au Tour de France. J'ai continué à m'intéresser aussi au vélo pour tous. D'abord parce qu'on est intervenu sur des journées de la bicyclette. notamment en 85, l'année où j'ai demandé à la préfecture de police si on pouvait utiliser les voies sur berge le dimanche matin de cette journée de la bicyclette. Ça a été une grande première. Vélo et voies sur berge.
Comme quoi,
voies
comme
sur berge réservées. Quoi, dans mon esprit, c'était pas pour c'était pas pour que ça continue, ni même pour que ça revienne tous les dimanches. Bref, mais on l'a fait. Et surtout, j'ai beaucoup travaillé avec le maire adjoint de Paris, il s'appelle Raymond Dohey. Donc l'époque où Jacques Chirac était maire de Paris. Et ça n'a pas été simple d'ailleurs, parce que Jacqueline Nebout n'était pas très favorable. Mais on a mis en place les couloirs de courtoisie. Ça a été les premiers couloirs cyclables dans Paris. Donc il y avait un vélo vert, de couleur verte. Le principe des couloirs de courtoisie, c'était on disait au vélo, c'est là que vous pouvez être le plus en sécurité. Aux voitures, ça ne vous est pas interdit. Ce n'est pas des voies réservées aux cyclistes, mais c'est là où ils ont tendance à circuler. Alors, il y en a beaucoup moins qu'aujourd'hui, il faut comprendre aussi. Mais donc, ça, voilà, l'idée de la courtoisie, c'était ça. C'était, voilà, on partage intelligemment la route et on se respecte. Alors ça, c'est malheureux parce que c'était un peu abandonné, cette idée. On s'est moqué, évidemment, on en parlait des couloirs de la mort. Enfin bon, vous imaginez. Mais en attendant, c'était une grande première. Et puis par la suite, alors on est allé beaucoup plus loin avec la création de l'Amicale cycliste parlementaire en 1992. Où on a jusqu'au rapport Le Breton, que j'ai en bande partie rédigé, que vous pouvez relire. Il y a tout ce qui a été réalisé depuis. Donc c'était en 2000, c'était remis en 2004 à Jean-Pierre Raffarin. Et voilà, donc on a à ce moment-là le comité de promotion du vélo. On a défini tout ce que devrait être une politique en faveur du déplacement en bicyclette. On ne parle plus de course cycliste et autres. Hein. Le déplacement au quotidien, toutes les mesures qu'il faut prendre, etc. Et c'est assez étonnant de voir que ce rapport qui a été publié a été pour partie pratiquement à 80% suivi des faits. Quoi.
Presque précurseur en tout cas. Allez, on va marquer une pause musicale et ensuite, tiens, justement, on parlait du vélo dans Paris. Bah, hier, Paris, il y avait des vélos qui suivaient simplement les marathoniens et les marathoniennes. On va en parler dans quelques minutes. On t'a fait un petit plaisir, on t'a passé un Johnny Hallyday. Je sais que t'es un passionné aussi par Hallyday.
Rock and roll.
Ouais, allez, on y va. Musique et ensuite on parle du marathon.
Quand tes cheveux s'étalent comme un soleil d'été et que ton oreiller ressemble au champ de blé, quand l'ombre et la lumière dessinent sur ton corps des montagnes, des forêts. Se fait douce quand ton corps se fait dur, quand le ciel dans tes yeux d'un seul coup n'est plus pur, quand tes mains voudraient bien, quand tes doigts n'osent pas, quand ta pudeur dit non d'une toute petite voix. Que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime. Tu ne te sens plus chatte et que tu deviens chienne et qu'à l'appel du loup tu brises enfin tes chaînes. Quand ton premier soupir se finit dans un cri, quand c'est moi qui dis non, quand c'est toi qui dis
fait l'amour, quand d'autres font la guerre, quand c'est moi le soldat qui meurt et qui la perd. Que je t'aime, 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 que je t'aime.
Allez, comme promis, on va maintenant donc, parler du marathon de Paris. On a Émilie au téléphone. Émilie, bonsoir.
Bonsoir.
Bon, alors.
C'est un plaisir d'être là.
Ah, bah ouais. Eh ben, toi, t'es, comment tu t'es réveillée ce matin? Dans quel état d'esprit?
Eh ben, je me suis rendu compte que j'étais marathonienne, donc un sentiment très spécial.
Oui.
Avec un petit peu des courbatures aussi.
Ah,
mais franchement, des souvenirs incroyable de hier, avec des supporters tout le long du parcours, c'était juste euphorique.
Oui, t'es partie dans le dernier sas, non? Vers 11h30, midi par là, non?
Non, je suis partie dans le sas de 4h, donc à 10h30. Ouais.
Ah ouais.
Et au final, j'ai passé mon temps à dépasser des gens parce que j'étais en pleine forme et j'ai adoré vraiment du début jusqu'à la fin. J'avais suivi une bonne prépa, donc ça m'a permis d'avoir zéro mur. Donc,
t'as pas eu un petit moment difficile?
Non, du tout. Oh. J'ai vraiment adoré tout le long. Ouais. C'est vrai que, et en plus, je voyais des gens qui s'arrêtaient.
Ah ouais.
Je me suis dit, moi j'étais là avec ma musique, je voyais des gens qui criaient sur le côté, des panneaux, enfin des affiches que les gens avaient préparées pour leurs proches, et c'était tellement beau à voir, et juste le sentiment euphorique de courir sans douleur, avec de la musique, avec l'ambiance dans Paris, c'était incroyable.
Ouais, on va rappeler
que ça m'a boosté.
Ouais. 3h51 minutes, hein, c'est ça, hein.
Oui, exactement, 3h51.
Et quand tu étais venu en parler au mois de décembre, t'avais pris le pari de faire en dessous des 4h, donc Paris gagné.
Donc Paris gagné, et j'ai réussi même à faire un négatif split, donc à faire un temps plus rapide sur la deuxième partie du marathon que le premier. Donc, donc j'étais vraiment trop contente.
Bon, t'as eu le temps d'apprécier la capitale, alors quand même, comme t'as pas eu de coup difficile.
Exactement, et c'était impressionnant, c'était trop sympa de voir Paris complètement vide, de devoir respecter les stops ou les feux verts, feux rouges, et de juste pouvoir courir et apprécier, c'était trop sympa.
Voilà, donc tu as le sentiment d'être quelqu'un d'autre ce matin?
Un petit peu,
ouais.
Après c'est retour à la réalité, retour à... J'ai plus d'objectif, donc qu'est-ce que ça va être mon prochain objectif maintenant?
Ouais, tu vas recommencer. Bon, à Paris, tu vas refaire un deuxième Paris peut-être l'année prochaine, non? Non?
Sûrement.
Ouais.
Parce que je sors du marathon avec. Je sortais avec énormément d'énergie encore.
Mmh, mmh, mmh.
Donc je pense que je peux viser un temps encore plus ambitieux pour une prochaine fois. Donc, ça reste mon prochain objectif, mais je me laisse déjà le temps de bien donner du repos à mon corps.
Bien sûr.
Et à mes jambes.
Bien sûr, bien sûr.
Avant de me lancer dans un prochain objectif.
Oui, et puis après, il y aura peut-être des plus lointains, hein, des prestigieux comme New York, Londres ou même Berlin, justement.
Possiblement.
Ouais.
Bah, après, c'est toute une question de qualification pour certains de ces marathons, mais dans l'idée, faire des grandes capitales comme ça ou New York, ce serait incroyable.
Et puis, on va rappeler que c'était aussi pour Gustave Roussy, hein, ce qui était pour toi très important, Émilie.
Exactement.
Hein. Ouais.
Oui. Oui, c'était une des raisons pourquoi je courais et qui m'a aussi motivée tout le long du parcours. Et il y avait toute une zone d'encouragement pour les dossards associatifs aussi.
Mmh.
Qui nous a boosté au milieu du marathon. Et je courais avec cette idée en tête pour des personnes qui ne pouvaient pas faire le marathon. Donc, c'était encore plus significatif.
En tout cas, c'est vrai que c'est une très, très belle fête. Xavier, ça ressemble beaucoup au Tour de France, le marathon de Paris. Hein.
Oui, dans la mesure où c'est une épreuve populaire.
Ouais, on va au bord des routes encourager.
Oui, il y a le côté avec les spectateurs qui encouragent au bord de la route de manière, effectivement, comme je dis, assez populaire. Je me souviens des premières organisations avec Joël Lenné, d'ailleurs, qui était chargé, puisque c'est ASO, hein, qui avait récupéré le marathon de Paris. Et ça m'a rappelé surtout, pardon de revenir au vélo, mais juste avant les marathons, notamment parisiens, on avait lancé les cyclosportives.
Oui.
Et c'était le même principe, au fond, c'est d'ouvrir des grandes épreuves.
Mais des
et de mélanger entre les professionnels, j'allais dire l'élite, quoi, et la grande masse qui se fait plaisir, qui fait le même effort. Et c'est génial parce que ce qu'on vient d'entendre, justement, j'aime beaucoup. Je suis très admiratif d'abord. 3,50, en plus, c'est pas mal. C'est ce qu'a fait Nasser Bouani hier. Oui. Et non, mais je suis très admiratif. Mais c'est sympa, c'est l'esprit qui ressort. Oui, c'est-à-dire que on est content, on se fait mal, mais on est vachement content. Et à la fête, pour ceux qui sont au bord des routes, c'est aussi, ils sont contents de voir passer des gens qui courent. Enfin, tout le monde est content. C'est comme, effectivement, c'est l'esprit Tour de France. Ouais, c'est-à-dire, ceux qui le font, ils se font mal, mais ils sont contents. Et puis, ceux qui les voient passer, ils sont contents aussi, parce que voilà, ils ont passé une belle journée.
Bon, ben voilà. Et Émilie, en tout cas, encore bravo. Hein.
Félicitations.
Merci.
Félicitations. Ouais. Hein,
bon, on t'envoie le podcast. On t'envoie le podcast et puis tu mets tout ça sur les réseaux sociaux, d'accord ?
Oui, parfait, ça marche.
Hein, et puis, dès que tu as un projet, tu viens nous revoir. Hein, voilà, dès que l'année prochaine, tu dis, allez, ça y est, je repars maintenant. Allez, combien tu pourrais faire ? 3,47, 3,48, non ?
J'essayerai de viser en dessous de 3,45.
L'ambition.
Là, ça fait beaucoup, là. Ah ouais, là, ça fait... ouais, justement, c'était quoi tes doses d'entraînement ?
Mes doses d'entraînement ?
Ouais, c'est-à-dire depuis le mois de décembre, quand tu étais venu, comment tu t'es préparé ? C'est-à-dire, tu as été courir pratiquement tous les jours ou il y avait des fois un jour de repos ou...
Alors, j'avais 5 séances par semaine avec 2 séances de fractionnés. Et donc, j'étais, enfin, à ma période de pic, j'étais à 90 km par semaine.
90 par semaine, ouais, c'est ça. Ouais. Donc,
ça montre bien qu'une prépa avec beaucoup de. Enfin, il faut monter les kilomètres et il faut vraiment se mettre à fond dans les séances de fractionner pour pouvoir tenir sur la vitesse, mais aussi les séances longues le week-end. Et il faut juste faire beaucoup de kilomètres pour bien vivre le marathon. Et après, une question de mentalité hein, aussi. Merci. Le jour J, tant qu'on est heureux et on aime l'ambiance autour de soi, je pense qu'il n'y a pas de raison de mal vivre le marathon.
Oui,
on part trop vite.
Parce que c'est vrai qu'entre vous, vous êtes encouragés. Hein, on a vu ça sur bord des routes. Hein, y avait des petits mots très sympas, beaucoup d'aide, beaucoup de solidarité. Hein.
Oui. Non, c'est sûr. Et même à l'intérieur du groupe des coureurs, tout le monde s'encourageait aussi.
Bien sûr. C'est ça qui est important. Bon, très bien en tout cas. Merci, Émilie.
Hein. Oui, merci à vous.
Bravo encore. Et puis, à très bientôt. Puis peut-être à l'année prochaine.
Avec avec le prochain projet.
Très bien.
Au revoir.
Merci, Émilie. Voilà donc pour Émilie qui a donc brillamment gagné son défi. Alors on va écouter une deuxième concurrente quelques secondes. C'est une Anglaise qu'on a rencontrée, donc c'est Delia, concurrente anglaise. Elle, c'était son deuxième marathon qu'elle terminait. Bon Delia, alors comment vous avez trouvé ce marathon ?
Super, c'était vraiment le temps, c'était bien, les courses c'était très joli, les publicum, les fans, c'est... En force, tout le temps, c'est vraiment...
Et en courant, on a regardé la capitale ?
Oui, c'était un grand sightseeing. Oui, c'était trop, très joli. Les tours Eiffel, l'Arc de Triomphe et toutes les choses, oui.
You will come back ?
Si, c'est déjà mon deuxième participation ici, mais je vais... Oui, je veux come back.
Thank you.
Merci.
Voilà, très sympa en tout cas.
Mignon tout plein.
Delia, elle reviendra. C'est promis juré. Alors, par contre, on est allé ensuite interviewer Olivier. Hein, c'est parmi tous ces 60 000 concurrents et concurrentes qui y ont participé. Lui, il venait de Normandie et c'était son 15e marathon de Paris. Bonjour Olivier. Alors, comment s'est passé ce marathon ?
Ça s'est très bien passé. J'ai été un petit peu trop rapide. Le vent a fait que j'étais entraîné dans ma course. Mais j'ai bien géré, mon groupe a tenu et je reçois quand même pas mal de félicitations, donc je suis content.
Oui, parce que vous aviez un temps barrière à effectuer dans votre esprit.
Voilà, j'avais un temps à respecter, un petit peu moins de 3:15 et bon, je fais 3h13, donc c'est vrai que c'est un peu trop rapide. Mais encore une fois, tout le monde était content, donc je suis content.
Bon, vous venez de Normandie, je crois savoir, c'est votre première, non?
Non, c'est mon 15e, je pense, marathon de Paris et plusieurs fois meneur sur Paris.
Et donc, jamais de lassitude, toujours pareil, toujours le même plaisir chaque année?
C'est toujours un plaisir de pouvoir emmener énormément de personnes qui partagent la même passion, la même philosophie de vie, la course à pied.
Et on essaie chaque année peut-être de faire un petit peu mieux encore?
Effectivement, oui, dans 15 jours, je serai sur Londres pour faire un chrono pour moi. En moins de 3 heures.
Vous avez été encouragé sur le bord de la route. Hein.
Impeccable, il y avait énormément d'encouragement. Beaucoup de groupes de musique, c'était vraiment sympa. Ouais.
On a le temps de regarder un petit peu quand même la capitale.
On a le temps effectivement de regarder la capitale, c'est vraiment une belle ville Paris.
Bon, bah, très bien, bah, Olivier, rendez-vous l'année prochaine.
Rendez-vous l'année prochaine.
Merci. Voilà, ça c'était donc pour Olivier, qu'on était à son 15e marathon sur Paris. Et puis ben, maintenant, on va écouter un jeune francilien, Guillaume, qui lui venait de terminer et d'achever son premier marathon sur Paris. Bon, Guillaume, premier marathon qui vient de se terminer.
Eh oui, premier marathon de Paris. C'est que d'émotion, c'était dur, c'était très dur.
Comment ça s'est passé d'une façon générale? Il y a eu naturellement des passages beaucoup plus difficiles.
Hein. Ouais, bah, jusqu'au kilomètre 21, on va dire que c'était assez agréable, des bonnes sensations. Et puis après, douleur au mollet, je m'étais fait une petite blessure en entraînement, j'ai senti la douleur qui commençait à remonter. Donc, j'ai essayé de gérer un peu l'allure. Et à partir du kilomètre 31, on va dire... Bah,
le fameux cap.
Ouais, là, c'est la souffrance. les montées et descentes des quais, là, déjà, elles attaquent bien l'énergie, on va dire. Et puis sur la fin, dans le bois, là, j'ai l'impression que j'avais plus du tout d'énergie. Mais bon, au mental, ça l'a fait.
Et alors, entre soi, on s'encourage, on se dit des petits mots, parce que je suppose qu'on est pratiquement tous et toutes dans le même état.
Ouais, c'est clair. Bah déjà, avec les autres coureurs, on voit qu'il y a quand même, il y a quand même une sorte de solidarité qui se forme. Et puis, moi, j'ai pas mal de gens qui étaient venus m'encourager sur le bord de la route. Donc, à chaque fois, ça remet des petits coups de boost, quoi, on va dire, hein, pour permettre de tenir jusqu'à la fin.
Voilà. Et puis après, ça fait quoi comme sentiment quand on est dans le dernier virage, qu'on est à 300 mètres de la banderole d'arrivée?
Ah, c'est beaucoup de joie. On voit le bout, donc on donne tout. Moi, j'essaye de toujours faire un petit sprint à la fin pour ne rien regretter, on va dire. Mais ouais, non, on revoit un petit peu bah, toute la préparation, toutes les semaines de travail qui défilent, quoi. Et bah, c'est beaucoup de bonheur, hein, beaucoup de satisfaction, de fierté aussi à la fin quand on passe la ligne. Et ouais, on est prêt à attaquer le prochain. On
attend. C'est ce que j'allais dire. Il y aura un prochain l'année prochaine, fatalement.
Ouais, je sais pas encore. Je sais pas si ce sera encore Paris. J'aime bien changer, j'aime bien varier. Mais ouais, pourquoi pas. J'ai vu celui de La Rochelle qui avait l'air sympa. On a croisé le président lors du salon qui était très sympa, donc on va peut-être aller le faire là-bas.
Bon bah très bien, bonne récupération. Tu vas pas courir pendant une semaine là?
Ouais, au moins une semaine de repos. On va se reposer tranquillement et puis après on va reprendre tout doux.
Merci Guillaume en tout cas.
Merci
et
bon beaucoup.
Repos. Et bravo.
Merci.
Voilà, donc ça fait vraiment plaisir hein, de voir de telles satisfactions. Alors maintenant Xavier, on va écouter quelqu'un qui va vous envoyer un petit message. On l'a rencontré parmi les spectateurs de ce marathon de Paris. Bah, c'est celui qui avait terminé 5e du Tour de France en 1988, Éric Boyer. Bon, je suis avec une connaissance, Éric Boyer, ici donc à l'arrivée de ce marathon de Paris. Éric, d'abord un petit mot, comment vous trouvez cette ambiance?
Oh bah, c'est une ambiance qui ressemble à l'arrivée du Tour de France.
Absolument.
C'est l'ambiance que je connais, que je reconnais. C'est très convivial, c'est très sympa, les gens sont calmes, tout le monde applaudit, le premier comme le dernier. Non, je suis très content d'être ici.
Oui, avec une ligne droite que vous connaissez particulièrement. Hein.
Alors cette ligne droite, plus ou moins, c'est de l'autre côté, mais effectivement, ça, c'est une ligne droite cousine des Champs-Élysées. Et c'est vrai que quand on arrive ici, il faut toujours se rappeler que c'est un privilège quand même d'arriver tout près de la place Charles de Gaulle, ouais, de l'Arc de Triomphe.
Alors vous auriez dû être dans ce marathon, malheureusement, un petit peu plein de santé.
voilà, j'ai pris un dossard, voilà, je me suis inscrit, comme on dit. Et puis j'ai commencé ma préparation à courir dans la forêt de Rambouillet notamment. Et puis bah, malheureusement, j'ai eu un petit claquage à la cuisse droite, une petite déchirure musculaire. Je me suis soigné évidemment, mais les soins, ça prend du temps. Quoi, voilà. Et du coup, j'ai pas pu prendre le départ parce que la douleur est toujours présente.
Bon. Je suis sûr que c'est partie remise.
Exactement, c'est partie remise en effet. Je vais... mieux me préparer parce qu'en finalement quand on se blesse comme ça on accumule de l'expérience. Bon, faut pas que ça arrive tous les ans non plus, mais oui bien sûr que l'an prochain je ferai tout pour être au départ et je commencerai ma préparation beaucoup plus tôt, comme ça je pourrai la lisser sur 4-5 mois au lieu des 3 mois habituels.
Alors le champion cycliste que vous avez été, pourquoi maintenant la course à pied? Ce sont des sensations nouvelles qu'on veut retrouver?
Oui, parce que je fais du vélo quand il fait beau. Voilà, à partir du mois de mai, avril, je fais du vélo. Mais l'hiver, je ne fais pas beaucoup de vélo. J'aime bien aller faire du ski de randonnée en montagne. Et puis, j'aime bien courir l'hiver parce que quand on court, on n'a pas froid. Voilà. Et donc, hop, on enfile les chaussures, un short et on est parti pour une heure et demie. C'est très pratique. Et puis, du vélo, j'en ai tellement fait que j'aime bien faire autre chose aussi.
Oui, puis il y a beaucoup d'anciens champions cyclistes qui se sont mis à la course à pied. Hein.
Il y a Nasser Bouhanni qui est là sur le marathon de Paris aujourd'hui. Beaucoup, en effet, ils sont nombreux. Je remarque qu'il y a beaucoup de coureurs cyclistes qui, une fois leur carrière terminée, continuent à faire du sport. On l'avait vu déjà avec Laurent Jalabert, il a arrêté il y a longtemps, mais aussitôt il a enchaîné justement sur du triathlon, sur des marathons. Oui, ils sont nombreux et ça fait plaisir de voir de jeunes retraités du cyclisme se lancer dans d'autres aventures.
Et puis on doit avoir des sensations identiques. Quand on fait un marathon, on connaît son corps, on sait gérer son corps comme un coureur cycliste. Quoi.
Oui, on sait gérer tout ce qui est cardio, en effet, la préparation. Par contre, ça fait mal aux jambes. On a moins mal aux jambes en faisant du vélo. Là, il y a des chocs, etc. Mais c'est un petit peu plus traumatisant. Mais encore une fois, avec une bonne préparation, on s'en sort.
Vous avez déjà fait un marathon, celui du Médoc. Hein.
J'ai fait le marathon des Châteaux du Médoc. Je l'ai fait, je l'ai terminé. C'était une bonne expérience. C'est aussi pour ça que j'ai voulu en refaire un et celui de Paris. Bon, voilà, je le ferai l'an prochain. J'aimerais bien un jour faire New York, je sais pas, ou Londres. Et je vais déjà faire Paris l'an prochain et après on verra.
Oui, puis il y a quand même auparavant le SMI et même les 20 km de Paris. Hein.
Oui, alors justement, l'an prochain, je vais... m'inscrire sur des semi-marathons, sur des 10 km aussi. Et avant le marathon de Paris, c'est quasiment indispensable dans sa préparation.
Alors, pour finir, vous vouliez faire un petit coucou à notre invité de ce soir.
Oui, bonjour Xavier Louis, parce que quand Xavier Louis dirigeait le Tour de France, j'ai fait 5e du tour. Quoi. Voilà. Ouais. Je me souviens très très bien, on a de très bonnes relations. Xavier, j'espère que je te reverrai bientôt.
Très bien. Eh ben, merci en tout cas, le rendez-vous est pris. À très bientôt Eric, puis à l'an prochain, donc ici donc, sur les champs pour l'arrivée donc, du marathon.
Merci beaucoup Philippe, à l'an prochain j'espère.
Voilà, donc Xavier.
Oui, c'est un garçon charmant, ouais. Eric. Et c'est vrai qu'on s'est revus quelques années.
Et très bon communicant. Hein.
Oui, justement, ouais. il travaillait dans ce domaine. Et donc moi, j'avais créé ma société aussi depuis. Et on avait pas mal échangé. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup, comme d'ailleurs beaucoup de garçons de cette époque. Ce soit, je pense à Bruno Cornillet, je pense à Stéphane Roche.
Qui est pilote d'avion maintenant, Bruno Cornillet.
Oui, tout à fait. Ouais. Il a fini, là, ça y est. Mais on se voit assez souvent. Stéphane Roche, que j'aime beaucoup. Enfin, voilà. Puis à l'époque, Greg Lemon aussi, qui vraiment sont des garçons charmants. Et j'aime bien ces garçons qui avaient des vraies valeurs. Voilà, malheureusement, on a eu l'époque Armstrong après qui était moins agréable.
Moins bien. Non. Hein, elle était moins bien. Tu avais une question justement, Stéphane.
Justement, puisque comme vous aviez évoqué votre passif en tant que directeur du Tour de France et notamment la partie mondialisation, donc vous avez cherché à faire connaître le Tour de France à l'international. Qu'est-ce que vous répondez à cette part qui existe, hein, qui existe encore aujourd'hui, de puristes qui se disent « Ouais, mais le Tour de France, on fait le Tour de France, pourquoi faire lancer un départ en dehors de la France ou une arrivée en dehors de la France alors qu'on parle du Tour de France ?»
Vieux débat. Il faut d'abord rappeler une chose. Quand je suis rentré au Tour de France, à l'INPI, la marque Tour de France, le dépôt, c'était, et d'ailleurs au calendrier international, c'était Tour de France et d'Europe.
Ah,
ah ouais.
Donc il y avait déjà eu une évolution en ce sens. Moi, je suis, je vous ai raconté Berlin, vous imaginez que c'est quand même, c'est, ça donne une dimension autre au Tour de France, dans l'intérêt du Tour de France, dans l'intérêt de la France, l'image de la France, dans un intérêt financier, il faut le dire aussi, de partir de l'étranger, c'est, ça coûtait deux fois plus cher. Hein, voilà. Donc tout ça mis bout à bout, moi je suis... alors évidemment, l'arrivée elle doit être en France, 80% en gros du parcours se fait sur le sol français, et c'est donc bien nos Pyrénées, nos Alpes qu'on va montrer prioritairement, mais je trouve que ça a, une, ça a un sens incroyable. D'ailleurs, vous remarquerez, regardez toutes ces dernières années, il y a beaucoup plus de monde quand on part. Je parle de la ville départ. Si la ville départ est étranger, que si elle est en France.
Oui.
Beaucoup plus de spectateurs et probablement de téléspectateurs.
Oui, parce que, vous savez, on va quand même dire que c'est le troisième événement sportif mondial. Hein. Après la Coupe du monde de foot et les Jeux
Olympiques. Moi, je pense même, selon certains critères, c'est le premier.
Ah bon ?
Bah oui, parce qu'il faut multiplier par quatre. Puisque vous comparez le Tour de France avec la Coupe du monde de football et les Jeux Olympiques qui reviennent tous les quatre ans. Donc, il faut multiplier par quatre le nombre de spectateurs, le nombre de téléspectateurs. Ça dure trois semaines. Ça dure trois semaines. Donc, il faut, si on multiplie par quatre...
ça fait beaucoup plus.
Je n'ai pas prévu, mais effectivement, on se rapproche de la première place. Et vous aurez quand même remarqué au passage, ça répond en partie à votre question, c'est que la Coupe du monde de football, les Jeux Olympiques, on se bat pour l'avoir une fois par siècle, en gros. Tour de France, c'est tous les ans en France.
C'est vrai. Vanessa, donc, y avait, on l'a dit, une grosse actu sportive.
Oui.
Et on commence naturellement avec le vélo.
Évidemment. Et donc, le Paris-Roubaix, hein, donc pour la 123e édition de l'Enfer du Nord, c'est Wout van Aert qui s'est imposé au sprint devant Tadej Pogacar. Chez les femmes, c'est l'Allemande Franziska Koch qui termine devant la Néerlandaise Marianne Vos. L'autre thème central de notre émission, évidemment, c'est l'athlétisme et le marathon de Paris. Et donc, ce week-end, plus de 60 000 coureurs ont participé au marathon de Paris. Chez les hommes, donc, c'est l'Italien Yemaner Beran Kripa qui l'emporte en 2h05 et 18 secondes. Et chez les femmes, c'est l'Éthiopienne Shure Demis qui remporte l'épreuve en 2h18 et 34 secondes. À noter la très belle performance du Français Emmanuel Rudolf Lévis en 2h05-58 qui explose son record personnel. Et ça, vraiment, c'était beau à voir.
Sixième, exactement.
Ça, j'ai vu hier l'arrivée et ça m'a fait vraiment très plaisir. Au golf, donc, en golf maintenant, au Master d'Augusta, c'est Rory McIlroy qui décroche son deuxième Master d'affilée. Et donc, le Nord-Irlandais devient le quatrième joueur de l'histoire à réaliser cet exploit. On passe au tennis. Avec le Master 1000 de Monte-Carlo, une nouvelle finale Sinner-Alcaraz, et c'est l'Italien qui l'emporte, 7-6, 6-3, et qui récupère sa place de numéro 1 mondial. En badminton, championnat d'Europe à Huelva avec la victoire de Christo Popov, sacré champion d'Europe et qui succède donc à Alex Lagnier. Il l'emporte face au numéro 1 mondial Anders Antersen. Et par contre, défaite malheureusement en double pour la paire Popov face à la paire Lenvendi et des résultats beaucoup plus mitigés en double mixte avec Del Rugiquel qui sont fait éliminer dès le premier tour. En sport automobile, en rallye WRC, c'est le japonais Takamoto Katsuta qui remporte le rallye de Croatie après une erreur de Thierry Neuville, donc dans la dernière spéciale, et qui prend les commandes du championnat. Oui. On file au rugby maintenant.
Alors, on va dire qu'on a eu Fourmeau, il termine très loin sur ce rallye. Hein,
oui.
Donc
c'est un rallye extrêmement piégeux. Ouais. Là.
On espère quand même, on l'a vu il y a 15 jours pour une interview, et mais je suis sûr qu'il va quand même finir par en décrocher une. Voilà.
Merci beaucoup pour votre clin d'œil de spécialiste. Donc on file au rugby maintenant, c'était le quart de finale de la Coupe des Champions et l'UBB s'impose, l'Union Bordeaux-Bègles 35 face à Toulouse. Victoire de Toulon 22-19 face aux Glasgow Warriors. Et donc en demi-finale, Leinster sera face à Toulon et l'Union Bordeaux-Bègles défiera Basse.
Donc on pourrait bien avoir encore une finale franco-française.
C'est fort possible.
Très souvent.
Ouais.
Un peu moins sûr que l'année dernière.
On verra.
Toulon chez Leinster, ça va pas être évident.
On verra.
Et puis en Challenge Cup maintenant, Montpellier remporte son quart de finale face à Connacht, 45-22. Et puis défaite de La Rochelle, 41-24 qui s'impose, donc 24-41 contre Ulster. Et puis les Montpelliérains affronteront en demi-finale les Dragons. Pour leur entrée en lice du tournoi des Six Nations, les Bleus se sont largement imposés face aux Italiennes. Oui. Aux Italiennes. Oui, 40 à 7. Et puis, en basket, c'était la 37e journée de l'Euroleague. Victoire de Paris face au Maccabi Tel Aviv, 113-80. Monaco, lui, s'impose contre Barcelone, 93-86. Et puis, défaite de l'ASVEL qui s'incline 106-96, face à l'Étoile Rouge de Belgrade. Au classement, donc, Monaco est 9e, Paris 15e et l'ASVEL toujours dernier. 26e journée de Betclic Elite, victoire de Nanterre 86-72 face à Nancy et victoire également de Paris 92-86 sur le parquet de Strasbourg, ça fait plaisir. Et puis au classement, Nanterre reste 2e derrière Monaco et devant Paris. Handball maintenant, éliminé par Vesprem, le PSG ne s'est pas qualifié pour les quarts de finale de Ligue des Champions. Et le HBC Nantes affrontera, lui, Barcelone.
Oui, c'est le rescapé donc, en demi-finale de cette Ligue des champions hommes.
Et tout à fait. Et puis, en championnat, le PSG conserve 2 points d'avance sur Nantes suite à sa victoire 36-34 face à Saint-Raphaël pour le compte de la 23e journée de championnat. On referme ce journal des sports avec du volleyball. Et la suite donc des play-offs. Paris crée la surprise en s'imposant face à Tours en quart de finale et défiera Poitiers en demi-finale.
Alors, il faut dire qu'ils ont battu Tours, qui était le tenant du titre, et on les a vus. Hein, on les a vus gagner la Coupe de France il y a 15 jours. Ils sont passés par les barrages. Ils ont gagné les barrages, comme quoi cette victoire en finale de Coupe de France les a complètement relancés pour cette fin de saison.
Et puis donc, l'autre demi opposera Sète et Montpellier. Et puis chez les femmes, donc, les demi-finales sont Le Canet-Mulhouse et Le Valois-Paris-Vendeuvre. Voilà, très pour bien. Ce journal des sports.
Ouais. On essaye de rien oublier, hein, Xavier. Alors maintenant, attention, les coups de cœur, coups de gueule de notre ami Stéphane.
Eh bien, pour cette semaine, mon coup de cœur, j'en ai plusieurs. Et ça va vous faire plaisir. Ça va faire plaisir à notre invité, puisque c'est lié au cyclisme. Déjà, je vais commencer par le Paris-Roubaix. Hein, la victoire de Wout van Aert, qui ravit justement ce Paris-Roubaix 2026.
Et Tadej Pogačar. Une très belle course.
Ouais. Ils se sont tenus pendant un moment sur la fin de parcours, notamment au Carrefour de l'Arbre et dans le Vélodrome de Roubaix. Pour le coup, moi, ce qui m'a marqué, c'est le fait que le peloton soit unanimement fier et heureux pour Van Aert, puisque voilà, c'est un coureur qui a connu énormément de galères entre blessures et résultats malheureux. On se souvient notamment qu'en 2023, il avait crevé alors qu'il était en tête de cette édition-là. Justement, il y a un duel épique qui s'est mis en place et qui a été symbolisé dans le Vélodrome de Roubaix, où on sent que voilà, il est allé chercher vraiment sur ce dernier coup de patte face à Pogačar, qui lui aussi a connu beaucoup de galères. Hein. Il a crevé 3 fois. Malgré tout, il s'est quand même battu pour revenir dans la course et tenter d'aller chercher la victoire. Mais malheureusement pour le Slovène, pas de Paris-Roubaix pour lui, parce que c'est la seule classique qui manque à son palmarès déjà exceptionnel.
Ce qui va l'obliger à revenir.
Exactement, ce qui va l'obliger à revenir dès l'année prochaine.
Le soir même, en disant c'est bien, parce que du coup, il va revenir l'année prochaine, il y aura du monde pour regarder.
Bah oui.
Exactement. Bah, en plus, deuxième monument après Milan-San Remo, d'ailleurs, hein, pour Van Aert, c'est son deuxième monument après Milan-San Remo en 2020. Donc, c'était une victoire pleine d'émotions pour le coureur belge. Mention spéciale aussi au Paris-Roubaix femmes, notamment à Pauline Ferrand-Prévot, qui a roulé, donc elle a vécu son Paris-Roubaix en roulant pour la coureuse néerlandaise Marianne Vos, qui a vu son papa décédé. À la base, elle n'était pas prévue pour cette édition 2026 du Paris-Roubaix, mais quand elle a appris la nouvelle concernant sa coéquipière, elle a décidé de participer pour aider Vos à aller chercher la victoire. Ça s'est malheureusement pas joué à grand chose, hein, puisque c'est l'Allemande Franziska Kor qui s'est imposée au sprint final. Il s'en est vraiment pas fallu de grand chose, mais je tenais à saluer justement Pauline Ferrand-Prévot pour ce beau geste, puisque à la fin, les deux se sont tombés dans les bras. La victoire était pour la coureuse allemande, mais il y avait aussi une autre victoire qui s'est jouée en bout de course, en bout de ce Paris-Roubaix 2026, qui est femme.
Je pense qu'Antoine Blondin aurait dit « drôle de bacille ».
Ouais.
Et enfin, dernier petit clin d'œil aussi, ça on en a parlé dans les médias, mais vraiment très très fort, c'est la victoire de Paul Seixas au Tour du Pays Basque. Et là, pour le coup, exceptionnel. Il a écrasé cette semaine.
C'est un garçon assez... J'ai eu la chance de le rencontrer, en discuter avec lui. C'était au mois de novembre dernier. Il m'a fait une drôle d'impression parce qu'il a une maturité.
Oui.
On parlait avec Marc Madiot, justement. Il a une maturité incroyable pour un garçon qui a 19 ans.
Ouais, mais
il a la tête sur les épaules.
Il est très ambitieux.
Physiquement, on lui donne bien son âge, hein, oui. C'est clair. Mais la tête et tout, son, son, Je dis cette maturité qui est exceptionnelle, qui fait d'ailleurs que les spécialistes pensent qu'il va faire le Tour de France dès cette année.
Ouais. Et ça effectivement, on en a beaucoup parlé dans les médias français. Marc Madiot,
c'est là pour le coup un sacré événement.
Ouais. Voilà, tout à fait à suivre. D'ailleurs, c'est la première victoire française au Tour du Pays Basque depuis 19 ans avec Christophe Moreau en 2007.
C'est la première victoire dans une course à étapes.
Exactement. Et donc, bon, bah, pour ceux qui ont vraiment suivi le Tour du Pays Basque, bah, on se souvient notamment de sa victoire, je crois que c'est à la troisième étape, si je ne dis pas de bêtises, où il subtilise la victoire à Florian Lipowitz, le coureur allemand.
C'est ça. Oui. Ils sont tous les deux dans le final et le bat au sprint. Ouais, c'est... Bon, voilà. C'était un peu prévu qu'il le batte au sprint, mais enfin bon, c'est la façon dont il a couru. C'est-à-dire qu'il a couru avec panache, y compris le dernier jour. Il part à 50 km
de
l'arrivée, très alors qu'il n'avait pas de raison. Il devait être en défensive, il prenait un risque, en fait.
C'est ça.
Mais pour le spectacle, enfin, je sais pas, parce qu'il avait envie.
Il avait dit qu'il a été au panache.
Et c'est vrai qu'il avait raison, parce que du coup, bah, l'autre, il a compris que ce n'était pas la peine qu'il l'asticote. Après, il est rentré dans le rang, et puis, il aurait pu gagner cette étape. Il a, moi qui ai vécu l'époque, et puis beaucoup me l'ont raconté, quand Bernard Hinault, dès les juniors, est apparu, qu'effectivement, on est quand même dans ce même profil, c'est-à-dire du coureur qui, dès qu'il a 17-18 ans, déjà, dans les courses, il les gagne facilement. C'est des athlètes qui ont un truc de plus que les autres. Mais en plus, avec la tête, hein, il y a la tête et les jambes, et c'est vrai. Vous avez raison, c'est une belle... il y a plein d'espoir quoi derrière.
Il y a plein d'espoir pour remporter le Tour de France. Moi, je souhaite vraiment au cyclisme français de le voir.
C'est clair que s'il lui arrive rien, parce que malheureusement, un sport peut avoir des pépins de toutes sortes, ou péter les plombs, ça arrive aussi, il y en a. Mais bon, pour l'instant, ça n'en prend pas le chemin. Il devrait gagner, en tout cas, un grand tour, en tout état de cause, dans les 10 ans qui viennent. C'est de ne pas être trop pressé. Mais clairement, il a en tout cas tout ce qu'il faut pour. En ayant gagné un Tour du Pays Basque, il y avait quand même une opposition qui n'était pas... Il n'y avait pas les tout meilleurs, mais enfin...
Le plateau était quand même...
Il y avait quand même Lipowitz qui a été troisième du dernier Tour de France. Ça situe quand même le niveau. C'est très intéressant.
Et c'est que ça, c'est en plus qui repart avec tous les maillots. Leader, maillot vert, maillot à pois. Bref, tous les maillots sont repartis chez lui. Donc ça, c'était pour un coup de cœur complet consacré au cyclisme.
Merci, c'est bien.
Voilà, je n'en ai pas fait exprès.
Mais attention, maintenant le coup de gueule.
Et là, par contre, j'espère que tous les auditeurs vont bien écouter, parce que là, je suis très, très colère. Je suis très en colère. On va revenir quelques jours en arrière avec une interview que notre confrère d'Eurosport, Laurent Vergne, a réalisé avec Patrick Mouratoglou. Donc, on le sait, très investi dans le tennis. C'est lui qui a créé l'UTS Tour. Et il y a eu cette fameuse manche à Nîmes qui s'est déroulée.
Qui était l'entraîneur de Williams.
De Serena Williams, oui, tout à fait.
Et Mouratoglou.
Voilà.
Qui a son académie aussi.
Qui a son académie associée Antipolis. Bref, c'est un mania du tennis mondial. Et en gros, dans cette interview, il a voulu se mettre dans la place du révolutionnaire du tennis mondial. C'est-à-dire que selon lui, les jeunes ne s'intéressent plus au tennis. Il faut changer les règles, il faut donner un coup de jeune. Là, ça urge, parce que sinon, le tennis court à sa perte. Alors moi, j'aimerais répondre quelque chose de très franc à Patrick Mouratoglou. Les jeunes ne veulent pas un changement des règles du tennis. Les jeunes consomment le tennis autrement. C'est-à-dire qu'en gros, le problème du tennis ne se joue pas vers la jeunesse qui ne regarde pas le tennis. Le problème du tennis se joue sur tout un ensemble de décisions prises à l'encontre des sportifs eux-mêmes. Je vais prendre pour exemple la qualité des balles qui est affreuse. Vraiment, je le dis, passé 3-4 jeux, on a des balles qui grossissent, qui perdent de leur duvet et ça entraîne à terme des risques de blessures, parce que les joueurs forcent physiquement pour pouvoir frapper la balle. À terme, ça peut emmagasiner des blessures sur les joueurs. Vous avez aussi des Masters 1000 qui durent sur 12 jours. 12 jours et 96 participants au lieu des 7 jours et 48 participants qu'on a connus la semaine dernière à Monte Carlo. Quand vous prenez, par exemple, l'enchaînement Indian Wells-Miami, les deux tournois sont sur 12 jours. Les joueurs n'ont pas le temps de récupérer parce qu'il faut enchaîner tout de suite après. Ça crée une sorte de dépêche constante, vraiment de débauche d'énergie constante, et à terme ça peut provoquer des burn-out chez certains joueurs et certaines joueuses qui en ont déjà témoigné. Il y a aussi les prize money qui sont toujours inégaux en fonction des catégories de tournois, hein. Ceux qui sont dans le top 100 arrivent à peu près à vivre convenablement, mais ceux qui sont en dehors du top 100, top 200, 300, 400, 500, ils sont endettés, même en ayant remporté des tournois Challenger ou des tournois futurs. Il y a aussi effectivement les calendriers qui sont infernaux. Vous avez autant de tournois exhibition que de tournois officiels. Vous avez des tournois obligatoires, les Masters 1000 et les tournois du Grand Chelem, auxquels il ne faut surtout pas louper sous peine d'avoir des pénalités. Moi, je pense qu'il y a tous ces problèmes-là qu'il faut régler avant de parler de « les jeunes ne s'intéressent pas au tennis », parce que moi, personnellement, je vous le dis, je suis passionné de tennis, je suis le tennis depuis très longtemps, et c'est pas avec un tournoi fait pour les influenceurs TikTok, Instagram, avec des cartes Yu-Gi-Oh! Où on change joker, double balle de break, un seul service au lieu de deux, coaching sur... Non, c'est pas avec ça qu'on révolutionne le tennis. D'ailleurs, pour aller dans mon sens, sur les audiences, je vais prendre les audiences de Monte Carlo en 2025, 150 000 spectateurs sur site, 225 millions de vues sur les réseaux sociaux et 34 millions de téléspectateurs à travers le monde. Tous ces chiffres que je vous ai donnés par rapport à l'année dernière sont déjà battus. Ils sont déjà battus. Ils vont apparaître là dans les prochains jours. Je suis quasiment sûr qu'ils sont déjà battus. Pourquoi ? Pour deux raisons. La première, c'est qu'il y a de plus en plus de Français qui donnent cette hype. La deuxième, c'est Yannick Sinner qui remporte le tournoi. Et allez, petit bonus surtout, c'est la hype Valentin Vachereau qui est monégasque et qui a été en demi-finale du tournoi. Donc non, monsieur Mouratoglou, ce n'est pas en révolutionnant le tennis, en prenant les jeunes pour ce qu'ils ne sont pas, que vous allez révolutionner le tennis. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Il y a d'autres problèmes à régler.
Voilà pour le gros coup de gueule de notre ami Stéphane. Allez, une deuxième pause musicale et ensuite on va parler de l'actu très brève du ballon.
Pénitenciers bientôt vont se fermer. Et c'est là que je finirai ma vie comme d'autres gars l'ont fini. Tu peux gagner.
Voilà, on t'a gâté, Xavier.
Voilà. Bravo, bon, vous êtes ouais. Des grands spécialistes. Ouais. Hein. Je suis impressionné. Hein.
Stéphane, on va parler un tout petit peu du ballon rond. Alors, parmi cette quinzaine, il s'est passé quelques événements. D'abord, un petit événement concernant l'Italie, qui ne sera pas donc en Coupe du Monde pour la troisième fois consécutivement.
Oui, voilà. C'est ça. Éliminé par la Bosnie-Herzégovine, un partout au tir au but. Troisième Coupe du Monde consécutive, ratée par la squadra azzurra.
Pour un pays qui a gagné trois Coupes du Monde. Ah oui,
exactement.
Vous vous rendez compte ?
Exactement. C'est un véritable naufrage sur le plan sportif. Oui.
Alors sinon, on connaît donc maintenant tous les groupes. Et dans l'équipe de France, ce sera l'Irak avec la Norvège et puis le Sénégal.
Oui, c'est ça. Bah, ça va être un groupe très, très ouvert, pour le coup, plus qu'on ne le pense. Autant l'Irak fait office de petit pousset, mais le Sénégal...
Je vous rappelle qu'ils nous ont déjà éliminés...
En 2002.
Il me semble. Hein,
oui.
Mauvais souvenir, le Sénégal.
Tout à fait. Et la Norvège qui compte de très très bons joueurs, notamment sur le plan offensif.
Il y avait aussi la Ligue des Champions cette semaine, naturellement, le Paris Saint-Germain qui a surdominé Liverpool 2-0. On va rappeler aussi la victoire de l'Atlético de Madrid à Barcelone 2-0, celle du Bayern de Munich au Real Madrid 1-2, et puis Arsenal qui va s'imposer au Sporting de Lisbonne 1-0. On peut dire que les deux meilleures équipes qui ont fait l'impression, c'est le Bayern de Munich et le Paris Saint-Germain.
Oui, et potentiellement, ce sont les deux équipes qui peuvent se retrouver en demi-finale dès cette semaine, parce que c'est un grand pas qui a été réalisé d'abord par le Bayern en allant s'imposer à Santiago Bernabéu, mais c'est aussi un grand pas qui a été fait au Paris Saint-Germain en s'imposant de cette manière face à Liverpool, parce que c'est vraiment une victoire obtenue de la tête et des épaules. Petite frustration quand même sur le résultat, partagée par beaucoup de monde, notamment auprès des supporters parisiens. Il y a eu des occasions pour alourdir la marque.
Ça aurait vraiment pu être plus large.
Ouais.
Par contre, ça sera beaucoup plus compliqué pour Strasbourg, battu à Mayence donc 2-0. Va falloir un très grand match pour renverser la situation.
Ils en sont capables. C'est-à-dire qu'ils ont très très mal débuté le match aller. Ils ont concédé deux buts en l'espace d'un quart d'heure, avec beaucoup de problèmes défensifs et une équipe qui a tardé à se mettre dans le match. Mais le coach Gary O'Neill a quand même fait des changements qui ont vraiment permis à l'équipe strasbourgeoise de reprendre la main sur de reprendre le contrôle du terrain et de reprendre le contrôle du ballon face à Mayence, même si Mayence a un petit peu arrêté de jouer dans le dernier quart d'heure. Mais mine de rien, Strasbourg a quand même des possibilités. Il y a eu des occasions auxquelles les Strasbourgeois se sont créés, notamment en fin de match. Moi je me dis qu'avec avec un stade de la Méno bouillant au possible, la mission n'est pas si impossible que ça.
On verra ça. On souhaite en tout cas pour les Strasbourgeois. Il y avait une journée de championnat. Alors quelle journée, hein, deux matchs en moins qui se dérouleront, dont le fameux Lens Paris Saint-Germain le 13 mai. Par contre, il y a eu quand même des matchs avec des buts. La très belle victoire du Paris FC devant Monaco 4-1, celle de Marseille qui a battu Metz 3-1, et puis Lille qui est allé gagner à Toulouse 4-0, victoire de Rennes devant Angers 2-1 et nul entre OCR et Metz 0-0, sans oublier aussi Nice-Le-Havre 1-1 et Lyon-Lorient 2-0. Finalement, c'est bien le Paris FC qui s'impose, l'effet Comboiré joue toujours.
Ah ben oui, parce que
et
ça
quel
fait...
quel match, la meilleure prestation du Paris FC cette saison?
Oui, de très loin, sachant que depuis qu'il est arrivé, depuis que Antoine Comboiré est arrivé sur le banc du club parisien, il y a eu 6 matchs, aucune défaite, 3 victoires, 3 nuls, et un classement, tu vas nous le rappeler d'ici quelques secondes, ouais. Philippe, mais voilà, pour moi la mission est quasiment accomplie pour le maintien du Paris FC en Ligue 1.
Avec un grand joueur au Paris FC, Marshall Munetzi.
Ancien joueur, tout à fait.
Ouais, il connaît quand même le ballon.
Bien sûr.
Je me suis arrêté à Reims.
Vous avez Balogun, ils sont tous, tous les anciens de Reims, ils marchent pas mal.
Donc le Paris Saint-Germain en tête avec deux matchs en retard, donc c'est pratiquement bouclé pour le championnat. 63 points devant Lens, deuxième 59, troisième Lille 53, quatrième Marseille 52, cinquième Lyon 51 et sixième Rennes 50 et septième Monaco 49. Tout ça pour dire qu'il y a 1, 2, 3
3, 4, 6 équipes qui se tiennent en 3 points. Donc ça veut dire que ça se bat toujours pour les places d'honneur. Le Paris FC 12e avec 35 points. Et en bas de tableau, par contre, je crois que c'est la cause est entendue. Hein. Auxerre 16e avec 24 points. 17e Nantes 19 points. Et 18e Metz, donc 15 points.
Qui avait éliminé Reims l'année dernière.
Ouais, bah oui, bah oui. En Ligue 2, il y a un match ce soir entre Rodez et Troyes. Rodez qui est en tête avec 58 points, donc il ne faut surtout pas perdre ce match.
Rodez en tête.
Rodez, Troyes, pardon.
Ah,
pardon,
merci.
Ouais, voilà. C'est en ce moment.
Oui, c'était pour voir si tu suivais.
C'est bien. Ah ouais, hein, compliqué là.
C'est bien. Rodez, Rodez, Troyes, donc 20h45 le match. Donc Troyes en tête avec 58 points. Il ne faut surtout pas perdre ce match pour les Troyens. Parce que Saint-Etienne est deuxième à 5, avec 57 points.
Oui, mais ils risquent rien. Ils vont rester, ils vont rester dans les deux premiers. Donc.
Voilà. Et troisième, Le Mans, 54. Le Restart est 5e avec 51 points et 5e Reims, Xavier, 48 points. Donc ça veut dire que là aussi, pour les places d'honneur, non mais pour les barrages,
ça va se battre, mais c'est pas impossible.
Ouais, ouais. Bah, l'exemple barrages, de l'an dernier, mon truc.
Ouais. Eh oui.
Voilà. Et puis donc en bas de tableau, 16e Laval, 25 points, 17e Amiens, 24 points et 18e donc Bastia, 21 points. Un petit mot de national parce que on a quand même des clubs locaux hein, et tout a été relancé. Fleury s'est imposé devant le leader Dijon 3-1 la semaine dernière. Versailles a battu Sochaux 1-0 et nul.
Sochaux qui est toujours en lice pour
Versailles. Il avait marché en Coupe de France aussi.
Et Bourg-en-Bresse qui a battu le Paris 13 Atlético 1-0. Et ce week-end, eh bien Fleury est allé faire nul à Sochaux 2-2. Victoire de Valenciennes devant Versailles 1-0. Et par contre, Caen qui est allé écraser le Paris 13 Atlético 3-0. Ce qui fait que Dijon est en tête avec 55 points devant Sochaux 52. Rouen 3e 47. Et Fleury 4e avec 45 points. C'est-à-dire ils peuvent jouer les barrages.
Ils
marchaient les femmes chez les hommes.
Et puis donc, cinquième, c'est Versailles à égalité avec Le Puy et Orléans, 44 points. Le Paris 13, Atlético est 13e avec 30 points. Et c'est Saint-Brieuc, les Bretons, donc chez Bernardino là-bas, qui ferme la marche.
Le Puy, c'est les Pounaux. Il marche pas mal. Il marche en Coupe de France chaque année. C'est un plus beau des Tours de France.
Voilà, c'est ça. C'est vrai. Saint-Brieuc, 17e, avec les derniers, avec donc 20 points. Et puis juste pour les féminines, parce que Lyon reste sur les 4 tableaux quand même. Lyon a réussi à gagner son match retour contre Wolfsburg 4-0 après avoir été battu au match aller 1-0. Donc les Lyonnaises joueront Arsenal en demi-finale. L'autre demi-finale opposera le Bayern de Munich à Barcelone. Et puis Lyon jouera aussi la finale de Coupe de France contre le Paris Saint-Germain, puisque le Paris Saint-Germain s'est imposé devant le PFC 2-1, alors que Lyon s'est très largement imposé à Strasbourg 6-0. Donc le 9 mai, on aura un classique Lyon-Paris Saint-Germain en finale chez les féminines. Voilà.
Voilà. Pour la Coupe de foot. Comme d'habitude, hein, le classique Lyon-PSG, ça ne change pas chez les féminines, ça risque d'être un match encore plus serré que jamais, donc c'est top, surtout de revoir le PSG à ce niveau-là.
Bon Xavier, donc maintenant tu es investi dans les 100 plus beaux des Tours de France, hein, c'est ça. C'est le Tour de France qui t'a incité à aller s'intéresser à tous les villages comme ça de France?
En partie, oui. C'est-à-dire que, évidemment, j'ai tourné beaucoup à travers la France. Ouais. Et j'ai trouvé que c'était le Tour de France, y contribue, mais ce n'est pas sa vocation première. J'ai trouvé que ça valait le coup de montrer justement cette diversité de notre offre touristique, qui est vraiment exceptionnelle. Cette passion qu'il y a dans toutes ces villes, chez les maires, je parlais des capitales des Français, toutes des villes qui sont capitales de quelque chose. Ils ont envie de montrer leur ville, ce qu'on voit évidemment dans les étapes du Tour. Et tous les villages qui sont traversés, d'ailleurs aussi, les villages et les villes qui sont traversés. Et donc, c'est vrai que ça m'a amené d'abord dans mon rôle de maire adjoint de la ville de Sarlat, qui était une ville comme ça, qu'il faut aller. Pas évident, Sarlat, il faut faire un détour pour y aller.
Très belle ville, Sarlat.
L'idée qui nous est venue avec Jean-Jacques Descamps, qui était député maire de Loches, à la fin du siècle dernier, de regrouper ces plus belles petites villes de France, entre 2000 et 20 000 habitants, souvent des sous-préfectures ou des petites préfectures, de les regrouper sur le modèle des plus beaux villages de France, dans un réseau. Et ça fait maintenant, on vient de sortir le 28e guide, qui est le premier guide touristique national, qui est fait avec Michelin, 150 000 exemplaires, qui sont offerts dans les villes en question. Vous allez sur le site plusbeaudestours.com pour retrouver la liste de ces villes. Et je vous conseille d'y aller. On va lancer cette année les 100 week-ends malins. Parce que c'est des villes Les sondages l'ont montré où on a envie d'aller en week-end. Parce
oui,
que,
ouais, ça m'intéresse. Ça.
Ou un petit séjour. Quoi, voilà.
Bah, tu viendras nous en parler. Hein, tu apprends sur Sud Radio, tu verras aussi chez nous.
Ça va nous donner des idées.
Volontiers, volontiers. Pour aller prendre l'air. Notamment pour les Parisiens, parce qu'il y en a qui ne sont pas loin, on peut choisir. Mais il y a des villes, je pense toujours, qui sont toutes proches, auxquelles on ne pense pas. L'Isle-Adam.
Oui,
dans le Val d'Oise, qui est magnifique. Provins.
Provins,
Moret-sur-Loing, pouvait pousser jusqu'à Montargis, sur des villes qui sont que souvent les Parisiens ne connaissent pas ou sont jamais allés. Et honnêtement, c'est pas loin. À l'heure où l'essence est chère, pas besoin de faire des milliers
alors,
de kilomètres.
Ces bouquins, tu vas sur place pour nous donner tous les renseignements que.
Alors je vais sur place. On fait avec Michelin.
Ouais. Oui, non, mais
Michelin a pas mal d'informations aussi. Moi, je vais surtout sur place parce que on fait des audits tous les 4 ans pour vous garantir que le détour en vaut la chandelle. Mmh. Donc, on accompagne ces villes pour qu'elles montent en puissance, qu'il y ait des événements, qu'elles soient fleuries, qu'elles soient propres, que leurs bâtiments soient rénovés, etc., etc. Donc, tout ça, c'est les échanges entre les villes. C'est nous-mêmes qui les poussons, qui leur indiquons comment il faut faire. Et on a des villes qui ont progressé de manière extraordinaire, d'ailleurs.
Tiens, je reviens un tout petit peu au vélo. Ça coûte combien de recevoir le Tour de France?
Je ne connais pas les chiffres. Ouais. Enfin,
je crois que c'est
120 000 euros pour une totale, c'est-à-dire. Ouais. Oui, c'est ça, je crois que c'est 120 000 euros aujourd'hui. Mais je peux vous le dire ça, par expérience, ce n'est pas tellement sur les villes que le Tour de France fait son bénéfice, si je puis dire. C'est sur les sponsors retombées. Maintenant. Ouais. C'est pas non plus sur les droits télé parce qu'ils sont beaucoup moins forts que dans le football pour une raison d'abord simple, c'est que c'est pas en prime time et que la production coûte très cher.
Mm-hmm.
Coûte vachement cher. Vous voyez, à Paris-Roubaix, vous imaginez ce que ça veut dire en production, en coût de production, par rapport à un Roland-Garros. Vous voyez, c'est pas les mêmes moyens.
C'est pas les mêmes moyens.
Donc, c'est pris aussi sur les droits. Hein. Ouais. C'est normal. Donc ça coûte ça, mais le retour sur investissement, j'avais fait un rapport pour le ministre du Tourisme en 2003, pour le centenaire du Tour, pour Léon Bertrand, qui est encore sur Internet d'ailleurs. C'est le Tour de France au service de la promotion touristique de la France.
Mmh.
Et c'est vrai que j'avais mesuré justement les retombées, par exemple, pour une ville, d'avoir le Tour de France, et ce qui est extraordinaire, je me souviens de Jean Edernalier, c'était en 1987, on était avec Jacques Chancel, dans l'émission d'après-tour. Jean Edernalier parlait de son amour pour le Tour de France, et il dit ce qui est extraordinaire, c'est que pour de très nombreux villages, petites villes de France, le fait d'être seulement traversé par le Tour, c'est l'événement du siècle.
Oui, bien sûr.
Oui.
Vous imaginez, j'y ai pensé quand on traverse le fin fond du Cantal ou de la Lozère ou autre avec le Tour, et que tout le village est là, parce qu'ils savent qu'ils ne l'auront peut-être pas avant un siècle à passer, et ça reste l'événement, le moment très fort.
Xavier, il nous reste une petite minute et demie, tu as une multitude de vies, tu écris des livres, tu es romancier, tu es écrivain, il y a combien de bouquins ?
Je suis dans l'écriture de mon 15e bouquin, c'est sur des thèmes assez différents, j'ai parlé de vélo, d'économie, de Johnny Hallyday, j'en ai fait deux sur Johnny Hallyday.
J'ai de la lecture là.
Sport en général, de tourisme dans les bouquins, et puis je me suis mis un petit peu à romancer pour faire un livre politique.
Oui.
Donc, je suis en train d'écrire la suite. Donc, j'en avais fait un il y a 2 ans.
Une femme présidente, c'est ça ?
Une femme qui va jusqu'à la présidence. Et j'avais commencé à écrire en 89, je le précise, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur l'actualité. Et puis là, maintenant, je raconte, elle a été élue. Voilà. Et donc, je raconte ses 6 premiers mois. Ça peut être intéressant, ça peut donner des idées à certains. Madame le Président, ça s'appelait. Voilà.
Très bien, merci en tout cas.
Merci.
Ça a été un plaisir, beaucoup. Tu reviendras.
Hein. Ah, ça m'a fait très plaisir, bravo, vous avez, vous avez une radio très sympa.
Eh ben, c'est
merci,
bien, merci c'est à Jason une nouvelle fois pour avoir brillamment mis cette émission donc, en main du côté technique. Et puis on passe la main maintenant à nos copains de Au bout du foot. Belle soirée à toutes et à tous et on finit naturellement en musique. Belle soirée.
Belle soirée.
C'est un mal, tu me l'as prescrit. C'est un voyelle, je suis sa consonne. À nous deux, l'avenir s'écrit. Quand elle marche dans le quartier, c'est la tête baissée. Son passé lourd à porter. Je ne peux plus me détacher. Toucher, couler. Toucher, toucher, couler. 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 Mes amis me pointent du doigt. Les voisins me pointent du doigt. Maman me pointe du doigt. Les aveugles me pointent du doigt, yeah. Mes amis me pointent du doigt. Les voisins me pointent du doigt. Maman me pointe du doigt. Les aveugles me pointent du doigt, yeah. Elle règne d'une main de fer, mais son régime est contesté. Elle est mes ailes pour voler, mais enchaînée je ne peux décoller. Le bémol c'est qu'elle s'est donnée. Ses conquêtes on ne peut compter. L'aimer devient un dilemme. Je ne peux plus me détacher.
Toucher, couler. Toucher, toucher, couler. 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 Mes amis me pointent du doigt. Les voisins me pointent du doigt. Maman me pointe du doigt. Les aveugles me pointent du doigt. Mes amis me pointent du doigt, les voisins me pointent du doigt.
Mon Paris est fait.